Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de RESF, sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et www.rfpp.net pour nous écouter partout en streaming. Cette émission sera diffusée mardi matin de 7 à 8 et très bientôt téléchargeable sur le site RESF, hein, resf.info/radio. Et donc nous sommes toujours avec Lydie Abroga. Ah oui, et on vient quand même d'écouter Dougar. Donc c'est une version d'Eli Madi Sissoko et Sidiki Diabaté, et qu'on peut retrouver sur un superbe album, hein, qui s'appelle Corde Ancienne. Donc Lydie, tu vas tout de suite nous parler de, eh bien, de la privatisation, de l'enfermement, et avec des tas de choses qui sont très très intéressantes et pour le moins inquiétantes.
Tout à fait. Donc cette semaine, en fait, c'est l'occasion de parler de ce sujet pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'Observatoire de l'enfermement des étrangers, qui rassemble un certain nombre d'associations françaises qui dénoncent le recours systématique à la détention des migrants, organise une réunion publique autour de la thématique de la privatisation des camps. C'est ce mardi 11 octobre au lieu dit, dans le 20e arrondissement de Paris, à 19h. Et à cette occasion, Nicolas Hautmann, qui est un documentariste qui finalise cette année un documentaire qui s'intitule « À qui profitent les camps ?», diffusera des extraits de son travail, de son documentaire en cours. Et par ailleurs, j'y interviendrai également pour présenter une étude que nous avons réalisée à Migre Europe avec le soutien de la Fondation Rosa Luxembourg, et qui porte très spécifiquement sur la privatisation des lieux d'enfermement d'étrangers au sein de l'Union européenne. Et aux diverses formes qu'elle peut prendre d'une part, et surtout à ses conséquences et à ses enjeux, que ce soit sur les personnes enfermées elles-mêmes, mais également ses enjeux symboliques et politiques.
Ouais, des enjeux symboliques et politiques, et c'est des formes qui sont qui peuvent être sensiblement différentes selon les États. Donc je crois qu'il y a beaucoup travaillé en particulier sur le Royaume-Uni, sur l'Italie, sur la France.
Absolument. Alors le rapport fait un focus sur ces trois pays, Royaume-Uni, Italie, France, car il permettait ces trois pays en fait de montrer trois formes et niveaux de privatisation distincts. Au Royaume-Uni par exemple, on a un niveau de privatisation qui est très très développé. C'est le premier État européen à avoir privatisé la détention des étrangers, avec la majorité des lieux d'enfermement d'étrangers qui sont complètement gérés par des grandes multinationales de sécurité privée, parmi lesquelles certaines qui sont très connues, telles que G4S, Serco, Mighty, Tascor. Et le Royaume-Uni a privatisé depuis les années 70 ces lieux d'enfermement d'étrangers. Donc ça, c'est une des formes de privatisation au sein de l'Union européenne. Si on prend le cas de l'Italie, les centres d'identification et d'expulsion italiens relèvent de la compétence du ministère de l'Intérieur et des préfectures, mais celle-ci, elle confie traditionnellement la gestion et pas mal de services liés au fonctionnement des centres, type restauration, nettoyage, blanchisserie, etc., à des coopératives sociales. Et depuis les quelques dernières années, très récentes, depuis 2010, on voit des entreprises privées qui commencent, elles aussi, à s'implanter sur ce marché-là. Marché très concurrentiel, puisque l'État, du coup, passe un appel d'offres public pour la gestion des centres. Et le principal critère de sélection qui va être mis en avant pour choisir telle ou telle structure pour gérer le lieu de détention, ce sera le prix par détenu et par jour que propose la coopérative sociale ou l'entreprise privée.
On appelle ça le moins-disant.
Le moins-disant, exactement. Et en France, on a encore un troisième cas de figure qu'on a voulu développer. Les centres de rétention administrative, les lieux de rétention administrative dépendent de l'administration publique. Mais là aussi, il y a des formes de privatisation de certains des aspects du système d'enfermement. On sous-traite à une myriade d'entreprises privées les activités liées au fonctionnement des centres, de la construction à toutes les activités liées à leur intendance. Là aussi, la construction, le gardiennage, le nettoyage, la restauration peuvent être sous-traitées à des entreprises privées. Et une autre particularité de la France, c'est que la France privatise la mission d'assistance juridique aux migrants détenus à des associations depuis 1984, donc depuis la création officielle dans la loi des centres de rétention administrative, puisqu'ils existaient avant, mais sans existence légale, sans cadre juridique. L'État sous-traite à une association à caractère national active dans la défense des droits, l'accompagnement humanitaire et social. Donc ça a été la CIMAD jusqu'en 2009. Et aujourd'hui, on a en tout 6 associations, en métropole et dans les DOM-TOM, qui interviennent pour la mission d'aide à exercice effectif des droits des migrants détenus. Donc c'est une autre forme de privatisation qui touche pour le coup l'accès aux droits.
Voilà, qui touche pour l'accès aux droits. Alors on se souvient par exemple, il y avait eu, c'était au Ménil-Amelot il y a quelques années, une grève des personnes qui faisaient le ménage au Ménil-Amelot. Bon, ça avait été assez, si ça n'avait pas été dramatique, ça aurait été assez cocasse.
Exactement. Alors c'est un exemple qui est assez intéressant. C'est en 2013 en réalité, il y a eu un changement de l'entreprise sous-traitante pour le nettoyage, la blanchisserie, la restauration, si je ne me trompe pas. Donc c'était les employés de Défi Restauration qui étaient l'ancienne entreprise sous-traitante, qui étaient contraints par la nouvelle entreprise qui venait d'obtenir le contrat, Honnête, de démissionner de leur ancien emploi pour pouvoir travailler avec la nouvelle entreprise sous-traitante et de renoncer à pas mal de leurs avantages, type prime d'ancienneté, 13e mois, etc. Et d'accepter du coup une précarisation de leurs conditions de travail assez importantes. Donc cet exemple, il montre bien que la privatisation, elle emmène aussi la précarisation, vu qu'on est tout le temps à la recherche des meilleurs coûts des travailleurs des entreprises privées dans les camps. Donc ces travailleurs-là s'étaient mis en grève, et cette grève, pour dénoncer la précarisation de leurs conditions de travail, avait eu un impact évidemment sur les conditions de détention des migrants, qui en conséquence, en réaction à cela, se sont mis en grève de la faim pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de vie liées à ce mouvement social.
Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu, donc pays, dans chacun des pays, notamment en Angleterre, par exemple, des sociétés G4S hein, ou G4S, c'est des boîtes énormes, des multinationales énormes.
Absolument, c'est des énormes. Alors, pour le cas du Royaume-Uni, hein, c'est pas le cas pour tous les pays, mais c'est vrai que c'est un tout petit marché qui est dominé par une poignée de grandes multinationales de sécurité privée. Il y en a principalement 5, donc G4S, Sercom, IT, Tascor, j'en oublie une j'oublie. Mais ce sont des grandes multinationales qui, elles, ont acquis vraiment une très très longue expérience dans la prise en charge de services ou d'actions qui sont traditionnellement des activités régaliennes gérées par les États. Donc la gestion des frontières en fait partie, la gestion des centres de détention en fait partie, mais également les prisons de droit commun. G4S est très active également sur le marché de la détention aux États-Unis, en Australie. Elle intervient dans un nombre incroyable de pays sur tout ce qui est sur toutes les activités de sécurité et la sous-traitance de services traditionnellement gérés par l'État.
Voilà, et elle assure aussi la sécurité de certains personnels. Donc là, on n'est plus dans la rétention, mais je crois à Damas, à Bagdad.
Ouais, chargé de la surveillance du MIR israélo-palestinien notamment. G4S a également formé l'armée israélienne à des actions de sécurité, d'intervention de sécurité. Après, c'est des informations qu'on a ici et là, mais qui ne sont pas si faciles à trouver, car ces entreprises restent assez discrètes aussi sur l'ensemble de leurs activités et les retombées économiques que toutes les activités qu'elles mènent dans le monde génèrent.
Voilà, donc c'est des entreprises qui vont du nettoyage à un niveau de sécurité qui est proche du mercenariat, en fait.
On pourrait aller jusque-là, oui, tout à fait.
Et ça amène aussi des questions au niveau des responsabilités et de la dilution des responsabilités, hein, puisqu'on a vu avec quelque chose qui n'a rien à voir avec la rétention, j'espère, mais l'entreprise Covea peut évacuer des grévistes parce que ça n'est pas nos ouvriers, ce sont ceux d'une boîte qui faisait de la sous-traitance et on a dénoncé le contrat, donc ils ne sont plus à nous, on les vire. Là, on a ce type de dilution de responsabilité aussi.
Tout à fait. C'est l'un des enjeux très, très importants de la privatisation de l'enfermement des étrangers. Parce qu'il y a plusieurs conséquences. On peut voir des conséquences symboliques. Par exemple, on confie la gestion d'un lieu d'enfermement à une association de type humanitaire ou à une ONG. Ça peut être une stratégie pour l'État de dépolitiser l'enfermement, de montrer, voyez, je respecte les droits des migrants, je confie la structure de détention à un organisme de défense des droits. peut y avoir cette stratégie-là et qui des fois est régulièrement remise en question par les ONG elles-mêmes qui interviennent dans les camps et qui démontrent par leurs rapports et leurs communiqués, je pense notamment à la CIMAD, que malgré leur présence dans des lieux d'enfermement, elles ne peuvent absolument pas garantir ou suffire à garantir le respect des droits dans ces lieux. Une autre conséquence symbolique, c'est le contraire, c'est la criminalisation, puisque par exemple au Royaume-Uni, en sous-traitant la gestion de la détention des migrants à des grandes sociétés multinationales de sécurité privée, dont les slogans sont « sécuriser le monde, protéger la vie », ça contribue à criminaliser encore davantage les personnes qui sont détenues dans ces lieux, alors même que ces personnes n'ont commis aucun délit, si ce n'est de ne pas avoir de papier ou de pénétrer un pays sans les documents de voyage demandés, alors même que c'est leur droit le plus absolu, notamment lorsqu'elles sont demandeurs d'asile. Donc, criminalisation, alors, ça permet de banaliser l'enfermement et de criminaliser, d'une part, les détenus. Et les conséquences politiques, c'est qu'en effet, en déléguant la gestion du système d'enfermement des migrants à des entreprises privées, qu'elles soient à but lucratif ou non, l'État se met à distance de la réalité des situations, y compris situations de violation des droits, qui peut exister à l'intérieur de ces lieux, et du coup se met à distance des violations des droits qui sont générées par le système d'enfermement qu'il a mis lui-même en place. Donc on va avoir plusieurs acteurs, l'État qui sous-traite à une entreprise privée qui elle-même peut sous-traiter des services à d'autres entreprises privées, donc parfois on a vraiment un millefeuille d'acteurs privés qui vont travailler autour d'un camp d'étrangers. Eh bien, en cas de violation des droits, il devient très 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 difficile d'établir la responsabilité. À qui est la responsabilité ? À l'entreprise, à l'État. Ça permet vraiment de renforcer davantage encore l'opacité autour de ces lieux d'enfermement.
Voilà, et puis on a vu déjà, enfin là je ne sais pas si tu en parles dans le rapport, parce que je dois avouer que je n'ai pas eu le temps de le lire en entier, et je l'ai parcouru très vite, mais on a eu des cas comme ça très concrets, de gens qui sont morts au cours d'expulsion hein, dans l'avion, et on n'a pas incriminé la politique, et on n'a pas eu besoin d'incriminer l'État ou la police nationale pour ça, puisque c'était des agents de sécurité d'une boîte privée, c'était pas G4S.
Alors je pense que tu parles de Jimmy Mubenga.
Oui, entre autres.
Tout à fait. Donc lui, c'est un exemple en effet qui est l'un des plus connus. Il est mort pendant son expulsion, pendant sa tentative de rapatriement vers l'Angola. C'était un demandeur d'asile angolais et il est mort asphyxié du fait des techniques d'immobilisation qui étaient utilisées par les employés de G4S qui étaient en charge du service d'escorte des expulsés au Royaume-Uni à cette époque-là. Et malgré de nombreux éléments qui prouvaient la responsabilité des agents de G4S dans le décès et l'asphyxie de Jimmy Mubenga, l'entreprise n'a pas été condamnée. Les trois agents en question qui étaient accusés d'homicide involontaire ont pu être acquittés. Et on a quand même une diffusion des responsabilités où on voit que la privatisation, dans ce cas de figure-là, elle permet aussi bien à l'État qu'à l'entreprise privée de jouir d'une irresponsabilité en cas de violation des droits. Complètement. Et la seule véritable conséquence qu'il y a eu à la mort de Jimmy Mubenga, ça a été un changement d'entreprise pour le service d'escorte des expulsés au Royaume-Uni, puisque ça avait quand même fait scandale. Donc G4S, l'État, les Royaumes-Unis n'a pas renouvelé son contrat pour les escortes d'expulsés, bien qu'elle gère d'autres centres de rétention et qu'elle continue de gérer les camps au Royaume-Uni. Elle l'a transféré à une autre société. Seulement, il n'y a que 4-5 grandes multinationales de sécurité privée qui interviennent sur le marché de la rétention au Royaume-Uni et toutes ont été accusées ou ont été ciblées par des scandales de violation des droits, de mauvais traitements à l'égard des migrants, etc. etc. Donc finalement, quelle que soit l'entreprise à laquelle l'État confie, ça n'empêchera pas ce type de violation de se poursuivre et de ne jamais être
poursuivi. Il y a un système de dilution des droits, c'est pas moi, c'est lui, il a pas fait ce qu'on lui a dit de faire, donc on change et puis ça recommence et on peut changer comme ça.
Exactement, et personne n'est véritablement responsable est mis face à ses responsabilités. Ou en tout cas, c'est un système qui favorise davantage la dilution des responsabilités.
Ouais. Et puis, donc ça, on a parlé surtout, donc ça, c'est la Grande-Bretagne. On a parlé un petit peu de ce qui se passe en France, d'une part, avec la mise en concurrence hein, des associations qui interviennent pour la... donc pour faire valoir des droits, pour rendre les droits un peu plus effectifs, hein, que sont donc la CIMAD, l'Ordre de Malte,
tout à fait, France Forum Réfugiés,
donc qui interviennent en rétention, donc on les met en concurrence, ce qui est pas forcément une très bonne chose, enfin qui est pas forcément une très bonne idée, parce qu'après tout c'est pas un secteur qui a à être concurrentiel, la défense des droits, qui n'aurait même pas à être privé, quoi. C'est
tout à fait. Alors après, c'est parce que en effet, c'est des contrats de c'est des appels d'offres de marché public qui sont passés par l'État, qui sont renouvelés tous les 3 ans. Et en réalité, il y a une pression financière qui est toujours plus importante. Et d'ailleurs, là, à l'occasion du dernier renouvellement de marché public, la CIMAD a annoncé qu'elle se retirait de 3 CRA où elle intervenait dans la région du Languedoc-Roussillon. Et dans le communiqué de presse qu'elle a publié suite à son retrait de ces 3 CRA, elle dénonçait cette logique financière de moindre coût qui prévalait dans les appels d'offres de marché public et qui ne lui permettait plus, en réalité, d'assurer sa mission dans de bonnes conditions, et qu'elle faisait le choix, plutôt que de rogner davantage sur les conditions d'intervention de ces salariés, de se retirer car elle estimait qu'elle n'avait plus, que l'État ne lui donnait plus les moyens d'assurer l'exercice effectif des droits. Donc finalement, ce que me disait d'ailleurs l'un des salariés de la CIMAD à ce sujet-là, le problème n'est peut-être pas tant que l'État privatise l'accès aux droits des détenus. En réalité, rien ne prouve que si c'était des fonctionnaires de l'État qui étaient en charge de l'accès aux droits des détenus, le service serait de meilleure qualité. Mais ce qui est très important, en réalité, c'est les conditions de l'appel d'offres de marché public qui est passé, c'est-à-dire quels moyens l'État donne aux associations qu'il mandate pour qu'elles puissent, en effet, mener la mission qu'on leur confie.
Ouais. Et il y a, donc ça, tu l'as un tout petit peu mentionné, mais on n'a rien dit, enfin, très peu, sur l'Italie.
Tout
parce
à fait.
Que l'Italie, je crois qu'il y a eu là aussi un certain nombre de scandales, notamment avec des ONG très, très connues et qui on donnerait le bon Dieu sans confession.
Alors, donc, en Italie, en effet, bon, il y a eu un scandale de corruption autour des centres d'hébergement des demandeurs d'asile, notamment. Pour ce qui est des camps fermés, en tout cas, comme je le disais avant, ils relèvent de la compétence du ministère de l'Intérieur et des préfectures, mais traditionnellement, l'État sous-traite à des coopératives sociales. Et ces quelques dernières années, on a vu aussi des entreprises privées, la gestion et les services liés au fonctionnement des centres d'identification et d'expulsion. C'est un marché très, très concurrentiel, là aussi, où, comme je le disais tout à l'heure, c'est véritablement le coût par détenu et par jour qui est le principal critère de sélection. Et donc, on a une concurrence accrue entre les associations et les entreprises qui postulent à ces appels d'offres, qui vont proposer tout le temps des sommes réduites pour mener cette mission de gestion des camps. Et de fait, cette tendance à réduire les sommes allouées au fonctionnement des centres de détention a un impact sur les conditions de vie, bien évidemment, des migrants détenus. Donc on a des situations de surpopulation, de services qui sont revus au rabais. Par exemple, on va renier sur l'assistance psychologique des migrants, on va renier sur la restauration, sur le maigre argent de poche qu'on donne aux migrants. On a vu la situation dans un chier où la nouvelle coopérative sociale qui avait obtenu le marché pour un prix bien inférieur au contrat précédent, finalement, n'allait donner plus que 2,50 euros d'argent de poche aux migrants par semaine plutôt que 3,50. Finalement, n'allait plus assurer l'assistance psychologique. Donc il y a des conséquences directes sur les conditions de vie de détention et la dignité, l'intégrité physique, mentale des migrants qui sont détenus parfois pour de longues périodes, il faut le rappeler, hein, jusqu'à 18 mois dans ces lieux. Et par ailleurs, en Italie, il y a eu le scandale de la mafia capitale qui a révélé que des fonctionnaires haut placés de l'administration publique, des chefs d'entreprise, étaient impliqués dans un scandale de corruption sur le marché et avait infiltré des appels d'offres de marché public sur l'hébergement des demandeurs d'asile. Et c'est-à-dire qu'il grossissait les chiffres en prétendant qu'il y avait plus de demandeurs d'asile que ce qu'il n'hébergeait en réalité pour obtenir des subventions plus importantes et détourner des fonds publics. Donc c'est un business qui attire les intérêts de nombreuses personnes au-delà des entreprises privées. Donc on parle souvent de tout l'argent qui est fait par les passeurs qui aident les migrants à atteindre nos côtes. Mais ici même, sur le territoire européen, il y a également de nombreux profits qui sont faits sur le dos des migrants et de leur situation.
Voilà, parce que quand tu parles des chiffres d'affaires, de ces, enfin là, je ne les ai pas sous le nez, mais de certaines de ces boîtes, c'est monstrueux, quoi. C'est énorme, c'est ce que ça génère comme profit.
Absolument. On parle de sommes qui sont assez impressionnantes. Les appels d'offres de marché public au Royaume-Uni, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros à chaque fois sur des données, sur des périodes données. C'est des contrats de quelques années en général. Mais on voit qu'il y a vraiment cette tendance... pour donner un exemple, au Royaume-Uni, le nouveau contrat qui a été conclu entre le Home Office et la société Serco pour le camp de Yarlswood, camp de femmes détenues au Royaume-Uni, il est 42 millions de livres sterling inférieurs au contrat précédent. Et selon les communiqués officiels à ce sujet, cette économie très très importante, 42 millions de livres sterling de moins, c'est vraiment une économie considérable, elle est réalisée principalement du fait de la diminution de 20% du staff de Serco dans le camp de Yarlswood. Et ce staff de Serco en moins va être remplacé par des kiosques libre-service, donc concrètement par des machines à travers lesquelles les détenus pourront par exemple commander leur repas. Mais du coup, on se rend bien compte que cette tendance à la réduction des coûts et à la privatisation, à la réduction des coûts pour l'État, à la maximisation des profits pour l'entreprise d'autre part, a un réel impact en termes de dégradation des conditions de détention des migrants et de déshumanisation totale de ces lieux.
Ouais. Alors comme il nous reste, pour parler de ça, environ 5 bonnes minutes, hein, disons 6, puisqu'après on passera à l'autre agenda, est-ce qu'on peut continuer là-dessus, sur ce sujet-là? Et sinon, il y a d'autres choses dont tu voulais nous parler aussi.
Oui, alors... Alors, au-delà de, donc pour en discuter plus longuement et aller plus dans les détails sur ce vaste sujet qui est tout le business qui se développe autour de l'enfermement des étrangers, donc on vous invite vivement à vous joindre à nous mardi prochain au lieu-dit à la conférence publique organisée par l'Observatoire de l'enfermement des étrangers, où nous parlerons de ça encore plus en détail. Et par ailleurs. À Migre Europe, l'un des principaux outils sur lesquels on travaille pour documenter et dénoncer la multiplication des camps d'enfermement d'étrangers et le recours massif à l'enfermement des étrangers pour gérer les migrations, c'est la carte des camps des étrangers en Europe et au-delà. La première édition de la carte des camps a été publiée par le réseau en 2003. Et nous publions à la fin de ce mois-ci la sixième édition de la carte des camps, la dernière datée de 2012. Donc il y avait une mise à jour importante à faire. Donc c'est le fruit d'un immense travail de recherche et de collecte d'infos sur les lieux d'enfermement d'étrangers en Europe et au-delà. À travers lequel on communique à la fois sur cette politique de mise à l'écart de l'Union européenne au sein de laquelle l'enfermement est vraiment un outil central. Dans la nouvelle carte des camps, au-delà des camps fermés classiques, entourés de murs, de grillages, de barbelés, on parle aussi d'espaces plus informels de l'enfermement, notamment les commissariats et les gendarmeries de police, qui sont très très régulièrement utilisés par les autorités pour détenir à l'abri des regards, souvent en dehors de tout cadre légal, les migrants que l'Union européenne souhaite mettre à l'écart et éloigner. Et on parle également des hotspots qui sont du coup le dernier concept inventé par l'Union européenne pour enfermer et trier les migrants qu'elle souhaite accueillir et ceux qu'elle souhaite éloigner, car elle les considère comme étant indésirables, qui sont stigmatisés comme étant des migrants économiques.
Ah, et sur cette carte, il y avait, je crois qu'il y a toujours, ça fait quelque temps que je n'ai pas regardé, mais que j'ai beaucoup utilisé, une carte interactive des lieux d'enfermement.
Alors voilà, tout à fait. Il y a la carte des camps en version papier que nous publierons à la fin du mois avec en parallèle d'une note d'analyse que le réseau Migre Europe publie également sur les hotspots qui sont cette nouvelle forme de camps d'enfermement et de tri aux frontières de l'Union européenne qui ont été mis en place en Grèce et en Italie. Il y a également le site www.closethecamps.org qui est véritablement un site de cartographie dynamique et participatif sur l'enfermement des étrangers en Europe et au-delà, où n'importe quel visiteur peut contribuer à renseigner des informations sur aussi bien le lieu où se trouve le camp, sa capacité, les révoltes qui ont été menées par les détenus à l'intérieur, etc., etc. Des informations pratiques à la fois pour les proches des détenus ou pour les gens qui souhaiteraient être solidaires des détenus, mais également des informations plus précises sur les lieux où sont ces camps, quel accès au droit il existe à l'intérieur, quels services sont disponibles à l'intérieur.
Ça se présente un petit peu comme une... C'est une carte qu'on a, donc, interactive, qu'on a sur son écran. On voit les centres de rétention, les lieux de rétention sont signalés. Il suffit d'agrandir la carte, de cliquer dessus. Et si on a des informations, on va trouver les informations depuis quand il existe, combien il y a de personnes retenues, la capacité. Si on a l'information, le numéro de téléphone, les gens qui s'en occupent. Enfin, on a toutes les informations, un petit peu comme dans le rapport interassociatif sur la rétention en France.
Voilà, absolument. Il y a une carte par camp et par pays et on peut cliquer à chaque fois pour voir toutes les informations dont nous disposons actuellement, celles qui manquent. Et si certains des visiteurs ont des informations qui manquent, ils peuvent directement les envoyer et contribuer au projet.
Voilà, et cette carte, donc, elle est participative, mais quand même, les informations sont vérifiées.
Absolument, absolument. Il y a un gros travail de vérification des sources et des informations.
On a enfermé des Martiens qui sont révoltés, ça ne passera pas, on ne verra pas cette information. Et sauf s'il y a eu des Martiens qui ont été...
Absolument. Bon. Et cette carte en ligne dynamique et interactive, elle va être lancée dans sa version arabe fin novembre. Et nous organisons à cette occasion une rencontre araba pour travailler sur toutes les mobilisations à venir pour se battre encore et toujours pour la fermeture de tous les camps d'étrangers, quels qu'ils soient, y compris les hotspots récemment mis en place.
Voilà, donc il nous reste une minute pour conclure et sur le rapport que tu as rédigé sur la privatisation des camps et sur... Donc...
Pour conclure. Alors, pour conclure, venez parler avec nous de privatisation et de business de la détention des étrangers mardi 11 à l'Observatoire de l'enfermement des étrangers. Et restez connectés car nous publions très prochainement deux outils autour desquels nous pourrons nous mobiliser pour informer et dénoncer... le système d'enfermement qui est mis en place par l'Union européenne et ses États membres à nos frontières, mais également au-delà. Donc la 6e édition de la carte des camps et la note hotspots qui arrive à la fin du mois.
Voilà, et donc on peut rappeler quand même l'adresse de Migre Europe.
Alors l'adresse de Migre Europe, c'est www.migreeurope.org et l'adresse de Close the Camps sur l'enfermement des étrangers, c'est www.closethecamps.org. Facile.
Voilà, et bien sans coupure, on va passer donc directement à notre agenda, qui n'est pas très long d'ailleurs.